Si je vous parle de montagne, surtout en ce temps de vacances d'hiver, j'ai peur que votre imagination s'en aille vers le ski et la neige. Mais dans la Bible et dans la tradition chrétienne, quand on parle de montagne, il s'agit d'autre chose. Il s'agit, bien sûr, peut-être au début, de prendre de l'air, de regarder la création d'en haut, mais surtout de faire cette expérience et cette rencontre avec Dieu. On en a gardé dans la langue française le mot pour dire les hauts lieux du christianisme, c'est la montagne, hein, parce que c'est sur la montagne qu'on rencontre le Seigneur. Et il y a aujourd'hui dans nos textes ces montagnes, la montagne de Moria, ou du sacrifice d'Isaac, il y a le mont de la Transfiguration, et vous avez plein d'autres monts qui sont bien sûr celui du Sinaï et avec Moïse, et puis dans la vie de Jésus, beaucoup d'autres monts qui sont tous des moments de révélation, de rencontre intense avec le Seigneur, le mont de la Tentation, le mont des Béatitudes, le mont de la prière du Notre Père, le mont des Oliviers, le mont du Golgotha et celui de l'Ascension. À la Transfiguration, ce qui nous concerne aujourd'hui, s'il s'agit de vraiment un contexte de révélation. Pierre vient de faire sa profession de foi. Et Jésus va donc annoncer le cœur, révéler, annoncer le cœur de sa mission en commençant à parler de la passion, de sa passion et de sa résurrection. Mais vous le savez bien, pour Pierre comme pour nous, l'annonce de la croix, sans que nous en ayons vraiment le sens, c'est quelque chose d'impossible. Et le texte de la Transfiguration vient comme point d'orgue, vient comme confirmer, vient comme souligner, vient mettre en évidence et faire s'épanouir pleinement cette révélation de la passion et de la résurrection de Jésus. En effet, de quoi Jésus parle-t-il avec Moïse et Élie ? Il parle, nous dit Saint-Luc, de son exode à Jérusalem, de son passage de la mort à la vie, de son offrande pour notre salut, de sa mort et de sa résurrection. Et c'est intéressant de voir qu'il en parle avec Moïse et Élie, parce que Moïse et Élie, c'est une manière de parler par antonomase de toute la Bible. La loi, la Torah, Moïse, et Élie, les prophètes, et en sachant que les prophètes en hébreu, ce n'est pas simplement les messieurs les prophètes, mais c'est aussi ce qu'on appelle les livres historiques, parce que c'est l'agir de Dieu dans l'histoire. Et donc, Moïse et Élie, ils lui parlent, et c'est intéressant, ils parlent de tout ce qui le concernait. Et ils vont nous montrer finalement que cette révélation, et on l'entendra dans cette voix qui est donnée, tout ce qui, Jésus, vous savez, avec les disciples d'Emmaüs, il leur enseignait tout ce qui le concernait dans l'Écriture. C'est cette lecture de l'Écriture que nous faisons dans l'Église en y voyant partout cette annonce de Jésus. Partout, l'Écriture nous parle de Jésus, même si encore un peu en fragments, comme dit l'Épître aux Hébreux, et de manière plénière, cela nous est donné dans Jésus. Il est la révélation plénière de Dieu. Et c'est intéressant parce que Moïse et Élie, c'est ceux qui, sur la montagne, ont rencontré Dieu, ont vu Dieu, ont demandé de le voir et ont pu le voir. Et ici, il parle de celui qui est la révélation de Dieu même. Le contexte de ce texte, il fait allusion à deux choses différentes. Il fait allusion au texte de l'Exode, de la rencontre de Jésus au Sinaï. Et vous avez, on croirait être dans notre texte, la gloire du Seigneur demeura sur la montagne que la nuée recouvra pendant 6 jours. Et le septième jour, le Seigneur appela Moïse du milieu de la nuée. Vous voyez, on entend, c'est vraiment ce qui se passe, cette révélation de Dieu plénière. Mais c'est aussi une allusion à la fête des tentes, puisque c'est six jours après la profession de foi de Pierre, et on fait une analogie entre Pierre qui prononce le nom de Jésus, sa profession de foi, et le grand prêtre qui, dans le temple, une seule fois par an, le jour de Yom Kippour, prononçait le nom imprononçable de Dieu dans le Saint des Saints. Et après cette profession de foi, six jours après, c'est la fête des tentes, et on voit bien Pierre qui monte les tentes. Et cette tente, elle est très intéressante. Et elle est très intéressante pour nous aussi en ce carême, en ce chemin. Parce que la fête des tentes, c'est la fête de la protection de Dieu du peuple dans le désert. De l'affrontement, j'allais dire, de ce grand carême, les 40 ans dans le désert, de cet affrontement avec tout ce qui sort de mauvais du cœur de l'homme, de tous les murmures, de toutes les disputes, de toutes les violences, et où le Seigneur vient purifier son cœur. Et cette fête des tentes ici, cette transfiguration, elle nous est donnée justement pour passer d'une montagne de la révélation à l'autre, cette montagne de lumière à la montagne du Golgotha, où va s'accomplir notre salut. Et la fête des tentes, comme toutes les fêtes d'ailleurs, mais là aussi, mais spécialement, elle a un caractère qui nous parle des temps à venir, de l'accomplissement du temps, de l'accomplissement de Dieu. Et l'on voit justement avec ce sens, Pierre qui dit, mais on va faire trois tentes, hein, un peu comme dans le désert, les tentes c'est aussi, on va faire dans ce haut lieu, on va faire un sanctuaire, et Jésus qui répond à Pierre, presque comme le prophète Nathan avait répondu à David, « Non, ce n'est pas toi qui vas me faire une tente, mais c'est moi qui vais faire de toi une tente. » Car la transfiguration, et si nous sommes aujourd'hui ensemble au pied de ce haut lieu qu'est la montagne de la transfiguration, c'est pour que nous-mêmes, nous puissions, porter cette lumière. En effet, cette lumière, cette blancheur éclatante qui révèle l'intime unité de l'être de Jésus avec Dieu, elle est lumière. Et vous vous souvenez, dans le credo, on dit « Il est lumière, né de la lumière ». Et ce qui a été professé par Pierre avec force à Césarée de Philippe, c'est professé maintenant dans les sens. Et même si Moïse a eu une gloire passagère, encore passagère, et elle venait de l'extérieur, maintenant, avec Jésus sur la montagne, c'est une lumière qui vient de l'intérieur. Et là encore, nous passons du mystère de Jésus au mystère de l'accomplissement de nos temps, d'abord de Moïse à Jésus, de l'extérieur à l'intérieur, mais encore pour nous, car vous vous souvenez que la loi qui nous est donnée, la loi nouvelle, le propre de l'Évangile, ce qu'elle ne nous est plus extérieure des préceptes qu'on apprend de l'extérieur et qu'il faut suivre, auxquels il faut se conformer, comme bien trop souvent encore, nous vivons notre vie chrétienne un peu de cette manière, mais c'est avec cet accomplissement de la nuée qui est donnée, le jour de la Pentecôte, de l'Esprit-Saint, c'est la loi nouvelle, non plus écrite sur des cœurs de pierre, sur des tables de pierre, mais sur nos cœurs de chair. Et voilà tout le mystère qui nous est donné. Demandons dans ce carême, avec cette force de Jésus qui a traversé les tentations le week-end dernier, dans la pédagogie de dimanche dernier, demandons de recevoir cette lumière, de nous enraciner dans le Seigneur, de vraiment nous laisser animer par l'Esprit-Saint. Ce vêtement blanc, vous le voyez bien, il nous est donné le jour de votre baptême. Vous avez été revêtus d'une robe, d'un vêtement blanc. et c'est le vêtement des sauvés dans l'Apocalypse qui reçoivent qui sont en robe de lin blanc et qui acclament le Seigneur et qui ont lavé d'ailleurs leur robe dans le sang de l'agneau. C'est donc cette expérience, ce chemin. Si Jésus a vaincu les tentations, si Jésus est vainqueur du chemin, eh bien, c'est pour que nous entrions nous-mêmes dans cette nuée, que nous soyons frappés par cette lumière, que nous puissions l'accueillir. Je vous disais, Jésus dit, Jésus est, dans le dialogue, il est la loi, il est la Torah plénière, et nous avons à l'écouter. Écouter, c'est marcher avec lui, vivre cet exode avec lui, de faire de tous les instants de notre vie des moments de passage dans la lumière. Puisque je me suis attaché au contexte, je reprendrai un contexte un petit peu étonnant, enfin étonnant dans le sens où en général on ne comprend pas très bien. C'est dans l'évangile de Marc. On ne l'avait pas dans la lecture liturgique, mais si vous regardez dans votre Bible, le premier verset du chapitre 9 qui parle de la transfiguration, ici on a commencé au verset 2, et le premier verset, il dit quelque chose qui peut nous sembler un peu étrange. Il leur disait, en vérité, je vous le déclare, parmi ceux qui sont ici, certains ne mourront pas avant de voir le règne de Dieu venir avec puissance. On a souvent interpréter ce texte en disant oui, c'est parce qu'ils pensaient qu'il y en a peut-être quelques-uns qui n'allaient pas mourir avant que Jésus revienne, et ils croyaient en l'immédiateté des derniers jours, de la venue de Jésus dans la gloire. Mais il semble qu'il faille aller plus loin. Ils verront le royaume venir avec puissance. C'est justement ce regard de foi. Regarde foi à l'image de cette foi incroyable d'Abraham sur le mont de Moria. Moria, ça veut dire Dieu y pourvoira. Ça résume un petit peu tout l'exemple, tout le passage d'Abraham ici que nous avons lu. Et incroyable parce qu'il ne regarde pas du point de vue où on peut regarder dans une lecture païenne. Et justement, c'est pour lutter contre qu'est donné des pratiques païennes, qu'est donné ce texte. Mais il reste dans cette foi, dans la parole du Seigneur. Il a dit.